Les mondes africains, deuxième épisode, les routes de l'islam.
Oh, vous qui croyez, croyez en Allah et en ses apôtres et au livre qu'il a révélé à son apôtre et au livre qu'il a révélé auparavant. Car celui qui ne croit pas en Allah, ni en ses anges, ni à son apôtre, ni au jour dernier, celui-là est dans une profonde erreur.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Notre guide toute cette semaine, c'est François-Xavier Fauvel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis peu professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains. Vous avez publié, avec un collectif d'une vingtaine de chercheurs, une histoire de l'Afrique ancienne chez Belin, et puis avec Isabelle Surin, un atlas qui va être très utile aujourd'hui, un atlas de l'histoire de l'Afrique. Parce que quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, vous me permettez de commencer par le contemporain, un tiers de la population musulmane, soit 450, 500 millions d'individus vivent en Afrique.
Absolument, oui. On tend à oublier que l'islam est aussi une réalité africaine et que l'Afrique est aussi musulmane, oui. L'actualité nous invite à regarder l'islam sous l'angle de ce qui se passe au Proche-Orient, sous l'angle de ce qui se passe en Syrie ou en Irak, mais on ne regarde pas la réalité de l'islam, qui est pourtant, comme vous le rappeliez en introduction, qui est pourtant très majoritaire. Hein. On ne regarde pas sous l'angle africain. Or cet islam africain est lui-même très diversifié. Hein. Il ne peut pas se résumer au phénomène djihadiste dans le Sahara ou à travers le Sahara. Il a pris des formes très très différentes au cours de l'histoire et il prend encore aujourd'hui des formes très très différentes, en particulier de cohabitation avec des christianismes ou avec différentes formes de religions traditionnelles en africain.
Vous parlez du Moyen-Orient, mais selon une tradition qui n'est pas controuvée, vers 615, au tout début donc de l'islam, un petit groupe d'exilés qui s'estimaient persécutés à la Mecque est venu chercher refuge chez le roi chrétien d'Aksum, sur les hauts plateaux éthiopiens, et ce petit groupe aurait été introduit auprès du souverain qui l'aurait accueilli avec faveur.
Ce sont des Arabes qui ont osé trahir la religion de leurs ancêtres. Ils suivent une espèce de fou qu'ils appellent un prophète.
Mais je n'ai pas le droit d'enchaîner des êtres sans les avoir entendus.
Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit « Allez en Abyssinie, terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. »
Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition bien méritée, leur insubordination.
Pourquoi votre prophète vous a-t-il envoyé à moi ?
Parce que toi aussi tu crois en un livre où Dieu est unique, comme nous. Il nous a envoyé parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous.
Parler avec ces hommes, c'est puiser l'eau d'un mirage.
Mais maintenant, leurs paroles me créent un devoir de les écouter, mon ami.
Le roi d'Aksum est bienveillant. C'est un vieux film apologétique de 1976, Le Message de Mustapha Akkad. Mais qui en dit long?
Oui, parce que c'est effectivement une tradition qu'on rencontre dans l'islam, et c'est sans doute les faits authentiques. C'est-à-dire qu'effectivement, avant même l'égir de Mohammed à Médine, un certain nombre de ses fidèles ont émigré de l'autre côté de la mer Rouge, avec lequel existaient des liens commerciaux, et puis ont trouvé refuge auprès du roi chrétien d'Aksum. On a même les noms de ceux qui sont revenus quelques années plus tard en péninsule arabique.
Le roi, d'après une tradition musulmane minoritaire, se serait converti, mais il n'y a pas nécessairement de conversion, il y a des échanges de part et d'autre de la mer Rouge, parce qu'il y a eu un moment où il y avait un royaume juif aussi en face du royaume d'Aksum.
Absolument,
du côté arabe.
Absolument, tout à fait. Il y avait un royaume au VIe siècle, un royaume juif en Arabie du Sud. Donc cette histoire multiconfessionnel, voilà, avec des gens de différentes religions qui circulent aisément des deux côtés de la mer Rouge, du côté africain, donc de l'Abyssinie, ou du côté sud-arabique, montre bien le contexte de l'époque, voilà. Et on a affaire effectivement à des communautés chrétiennes, on a affaire à des communautés juives, on a affaire à des communautés musulmanes naissantes, sans nécessairement du tout que les clivages actuels, entre christianisme et islam, ou entre judaïsme, christianisme et islam, aient du tout le même sens à l'époque.
Je vous propose qu'on commence par les voies maritimes, Alors, la traversée de la mer Rouge, c'est peu de chose, mais longer l'océan Indien et chercher à relier l'océan Indien aux mers du Sud pour faire venir, par exemple, des produits chinois. Oui, parce qu'il y a une très vieille tradition en Afrique orientale, depuis l'Antiquité, d'échanges indirects, en tout cas, entre l'Empire romain et l'Empire chinois.
Absolument. Alors, d'abord, l'océan Indien, c'est un bassin commercial équivalent à celui de la Méditerranée, hein, avec des produits qui circulent, des animaux domestiques qui circulent, des plantes qui circulent, des langues qui circulent et des gens qui circulent. Tout ça est bien connu, quoique moins connu que pour la Méditerranée. Et les routes longitudinales, les routes qui vont de la Méditerranée à l'Inde, elles-mêmes sont parfaitement jalonnées depuis l'Antiquité. On a un très très beau texte qui s'appelle « Le périple de la mer Érythrée », voilà, qui date d'environ de l'an 40 de notre ère, un texte grec, voilà, qui nous montre très très bien que les routes sont parfaitement connues, et elles sont fréquentées de façon régulière par des marchands. Et en effet, le long de ces routes circulent des produits, principalement métal contre épices, enfin, mais à l'occasion des céramiques, des porcelaines chinoises, des soieries,
de l'or,
des esclaves circulent également le long de ces routes.
Oui. Des esclaves depuis quand ?
C'est très difficile à dire. Il est certain que déjà dans l'Antiquité, des esclaves circulaient le long de ces routes-là. À cette époque-là, des esclaves, c'est pas forcément des esclaves noirs. Hein. Donc, l'équivalence entre esclave égale noir est une équivalence qui se fabrique beaucoup plus tard dans l'islam, aux alentours du 9e siècle, et puis encore plus tardivement dans le monde européen. Donc à cette époque-là, c'est qui vous tombait sous la main pouvait devenir esclave.
Disons qu'on est au 9e siècle, puisque vous avez daté l'instant où nous nous trouvons, François-Xavier Fauvel, des marchands, maintenant ce sont des marchands musulmans, sont devant la côte est de l'Afrique. Peut-être devant un endroit dont vous nous reparlerez qui s'appelle Kilwa.
En ce temps-là, la navigation n'était pas chose facile. Aborder sans gouvernail les grands océans constituait un véritable exploit.
Et aujourd'hui, que des vents contraires se sont levés, transformant l'océan Indien en un chaos de vagues déferlantes et hurlantes, que peuvent faire marchands et marins sinon s'abandonner à la volonté de Dieu ?
Pourtant, là-bas, n'est-ce pas la terre que nous apercevons ?
Jafar ! Jafar, n'est-ce pas la terre que l'on voit là ? Là ! Regarde !
Oui, maître, mais nous n'y arriverons jamais !
Courage, marin ! Courage ! Nous sommes tout près de la terre !
Au
secours !
Maître ! La moitié des hommes a péri ! Les uns se sont jetés à l'eau ! Les autres ont été emportés dans l'abîme.
Courage ! Courage ! La terre !
Et encore un peu de temps à Kilwa. Eh bien, on verra depuis le bateau, quand on sera en face, des minarets de mosquées. Kilwa, c'est où d'ailleurs ?
Kilwa, c'est en Tanzanie, sur une petite île qui s'appelle Kilwa Kisiwani, qui est en face de Kilwa, mais qui est situation très intéressante, parce que c'est souvent sur ces petites îles, c'est la même chose à Mombasa, c'est la même chose dans d'autres, c'est la même chose à Zanzibar, évidemment, que s'installent ces premiers marchands, persans ou arabes, qui viennent au contact eux-mêmes de marchands africains locaux, et puis se crée progressivement une espèce de culture métisse, qu'on appelle la culture swahili, qui parle une langue bantoue, qui incorpore progressivement des mots arabes, persans. Et
une sorte de lingua franca, comme dans le bassin méditerranéen.
Voilà, et puis l'islam prend pied, et puis on aperçoit des innovations architecturales, des maisons de plan carré, bâties en calcaire corallien, et puis les premières mosquées, etc., et puis les premières inscriptions arabes. Et voilà, et de fil en aiguille, tout le long de cette côte est-africaine, depuis une région à peu près, depuis le sud de la Somalie actuelle, depuis Mogadiscio, jusque le Kenya, la Tanzanie, et puis y compris le nord du Mozambique, jusqu'à Sofala, voilà, fameux port côtier d'où sortait l'or des hauts plateaux africains. Et puis on peut y inclure aussi les Comores, et puis on peut y inclure aussi le nord de Madagascar. Voilà, là se dessine une nouvelle ère de civilisation, à la fois profondément africaine et musulmane.
Mais c'est un espace maritime. Un peu en arrière, il y a des États qui vont réguler les routes commerciales qui mènent au port, et puis des villes, Grand Zimbabwe, c'est pas une ville musulmane. Ah, faut que vous nous racontiez l'histoire de Grand Zimbabwe, parce que quand les premiers archéologues ou colons européens à la fin du 19e ont découvert cet ensemble de ruines monumentales, ils ont dit c'est une affaire d'Hébreux, de Phéniciens, la reine de Saba. Peut-être ils ne pouvaient pas imaginer que c'était des Africains
oui,
qui avaient construit cela.
On a effectivement des civilisations dans l'intérieur de l'Afrique, en l'occurrence au Zimbabwe, voilà, qui voient émerger aux alentours du 4e siècle, ces formidables forteresses de pierre qui s'appellent les Mazimbabwe, et dont la plus grande s'appelle Grand Zimbabwe. On voit là un royaume, un grand royaume puissant de l'intérieur qui se retrouve connecté avec la civilisation dont on vient de parler, la civilisation Swahili, et puis par son intermédiaire, plus lointainement encore, avec le monde islamique, et puis avec toutes les périphéries du monde islamique, y compris la Chine et l'Inde. Donc rien de surprenant qu'au 14e, 15e siècle, on retrouve à Zimbabwe de la porcelaine chinoise, par exemple.
Mais ce royaume, cet État, n'est pas musulman.
Cet État n'est pas musulman. En tout cas, on n'y a jamais retrouvé de mosquée ni de sépulture musulmane. Les musulmans, eux, sont sur les côtes. Quand je dis musulmans, entendons bien, il s'agit bien de musulmans africains, il s'agit d'Africains musulmans, de Swahili, véritablement une société africaine devenue musulmane qui a adopté l'islam.
Alors ça, ce sont les voies maritimes, François-Xavier Fauvel. Alors maintenant, nous allons emprunter, nous sommes au nord, dorénavant, les routes terrestres à partir de l'Égypte. L'Égypte qui joue un rôle de plus en plus central et d'où partent des expéditions dont l'immensité des distances parcourues ne cesse pas de nous étonner.
Alors, d'abord, quand les armées musulmanes conquièrent l'Égypte et puis conquièrent dans la foulée toute l'Afrique du Nord, ce qu'on appellerait aujourd'hui le Maghreb, qu'est-ce que c'est que l'Afrique du Nord à ce moment-là? Bon, ce sont des provinces romaines, hein. Ce sont des provinces qui appartiennent à Byzance, ce sont des gens majoritairement chrétiens. Bon. Et donc ce sont ces régions-là qui sont conquises par des armées arabes qui très très rapidement vont prendre jusqu'au Maroc et puis comme vous le savez l'Andalousie et puis vont tenter des passages au nord des Pyrénées.
Max-Paul Fouchet dans son émission de 1959, au moment où les envahisseurs surgissent à Kairouan dans l'actuelle Tunisie.
Au milieu du 7e siècle, de nouveaux envahisseurs surviennent. Nul intérêt ne les pousse. Leur expansion trouve sa force dans leur énergie à répandre leur foi, l'islam. Ils vont convertir les berbères indociles, donner un visage permanent à la Tunisie. Dans la steppe désertique, le conquérant Oukba ibn Nafi s'arrête l'an 670. Habitants de ce pays, s'écrit-il, partez. Aussitôt, les serpents, les scorpions, les bêtes dangereuses partirent avec leurs petits. Les hommes s'établirent, ce fut Kairouan. Dans son sommeil, Oukba ibn Nafi vit une figure qui lui dit « Demain, prends ton étendard et quand tu entendras une voix proclamant « Dieu est grand », alors plante-le en terre et là, tu construiras ta mosquée. » Ainsi, d'un grand quadrilatère sacré fut marquée la steppe.
Nous sommes maintenant à la fin du 7e siècle. La grande mosquée de Kairouan, dont vous parlez longuement dans votre histoire de l'Afrique ancienne chez Belin. Nul intérêt ne les pousse, ces envahisseurs, intérêt commercial peut-être, oui. Intérêt apologétique aussi.
Oui, effectivement, intérêt apologétique et puis intérêt commercial. Ce qui se dessine au 7e siècle, c'est une nouvelle ère de civilisation qui est l'islam médiéval, qui va du Maroc jusqu'à l'Asie centrale, et qui devient en quelque sorte l'articulation, la cheville du monde médiéval, enclenchant en Afrique du Nord un processus non seulement de conquête politique, mais c'est un islam qui est d'abord démographiquement minoritaire. Hein. L'essentiel des populations d'Afrique du Nord restent chrétiennes pendant très longtemps. C'est le cas en Égypte et puis c'est le cas encore aussi dans toutes les anciennes provinces romaines d'Afrique du Nord. Et puis un processus d'islamisation progressive s'enclenche et un processus d'arabisation qui s'enclenche, c'est-à-dire d'adoption par les sociétés locales de la langue arabe. Processus néanmoins incomplet, puisque comme vous le savez, des gens parlent berbère.
Oui, parce que la résistance berbère jusqu'en l'an 700 a été opiniâtre.
Absolument, et puis même encore après, pensez au Maroc, toutes les dynasties jusqu'au 14e siècle sont des dynasties berbères qui dominent le Maroc. Donc ce sont des processus qui sont liés les uns aux autres, conquête militaire, islamisation, donc adoption de l'islam, arabisation, adoption de la langue arabe, mais qui ne sont parallèles, mais qui ne sont pas du tout poussés jusqu'au même terme.
Mais François-Xavier Fauvel, ça va être un des ressorts de votre enseignement au Collège de France. Vous allez montrer que l'Afrique est contemporaine d'autres sociétés, qu'elle est connectée, qu'elle est intégrée. Cette islamisation de toute cette région, c'est l'intégration d'une grande partie de l'Afrique dans un système monde.
Oui, tout à fait, parce que Je pense qu'en effet, du fait de la présence de cette ère de civilisation islamique, au sein de laquelle on parle une langue de communication qui est l'arabe, et au sein de laquelle il existe un système juridique, et au sein de laquelle il existe un système de poids et mesure, voilà, fluidifie en quelque sorte les échanges du monde, bon, et médiéval, et permet à différentes provinces du monde de se retrouver connectées les unes avec les autres.
Programmation musicale sous votre responsabilité tout au long de cette semaine, le groupe Coexister, voilà un nom qui vous va bien, en l'église Saint-Merry, donc à Paris, une église particulièrement ouverte vers l'écuménisme ou l'irénisme ou l'hospitalité, une église à âme concave, et un groupe de soufis du Maroc.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, les routes de l'islam, le deuxième épisode de notre série consacrée aux mondes africains avec François-Xavier Fauvel. Alors, la route terrestre, d'islamisation, Égypte, Cyrénaïque, Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc. D'accord, oui, mais il y a l'immense barrière au sud du Sahara. Derrière peut-être le pays des Noirs, mais on traverse pas le Sahara comme ça.
Non, on traverse pas le Sahara comme ça, et mais néanmoins des connexions se font. Bon, des connexions ont peut-être déjà existé, elles ont à coup sûr au cours de la préhistoire, peut-être au cours de la proto-histoire ou durant l'Antiquité, mais des connexions de proche en proche, profitant de ces îles dans le Sahara que sont des oasis. Et néanmoins, ce qui change à partir du 7e siècle, c'est la mise en place d'un commerce régulier à travers le Sahara. Bon. Et ce qui permet la mise en place de ce commerce régulier, c'est d'abord ce qu'on pourrait appeler un paquet technique, c'est-à-dire que le chameau, plus le palmier, plus les systèmes d'irrigation qui permettent d'organiser une connexion directe de part et d'autre du Sahara. C'est pas rien, hein. C'est 60 jours si on s'arrête jamais, mais dans les conditions normales, quand il faut faire des pauses, quand il faut c'est une centaine de jours ou 120 jours pour traverser le Sahara. Donc il y a un paquet technique et puis il y a un système juridique qui est porté par l'islam, qui offre des cautions légales, qui permet aux marchands de partir sans emmener leur valise de billets. Donc il faut en quelque sorte l'islam pour que se mette en place ce commerce transsaharien. J'y insiste parce que nulle part en Afrique au sud du Sahara, les sociétés africaines ne sont conquises. Nulle part des armées ne débarquent. Si l'islam progresse, et vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres d'appartenance
aujourd'hui. Voilà,
si l'islam progresse au sud du Sahara à partir du Moyen-Âge, c'est partout parce que l'islam est adopté et adapté par les sociétés locales. Pas du
vous
tout.
Vous avez parlé de Moyen-Âge.
Oui, j'ai parlé de Moyen-Âge parce que je crois que le mot est utile.
Vous introduisez une confusion.
Non, je crois que le mot est utile précisément en raison de ce que je disais tout à l'heure sur l'articulation des mondes. Il me semble qu'il n'y a pas de raison, même si on est d'accord, pour dire que la notion de Moyen-Âge est une notion qui a été créée et qui s'est appliquée à l'Europe chrétienne latine. Néanmoins, je crois que un mot n'appartient pas à ceux qui l'ont créé et qu'il est utile de penser la connexion des mondes et qu'il est utile de donner à ce monde connecté le nom de Moyen-Âge.
Je ferme la parenthèse et je voudrais que vous nous racontiez, parce que vous êtes un archéologue et un nomade aussi à votre manière, hein. Montreuil, les États-Unis, le Collège de France, Toulouse, vous animez un grand laboratoire archéologique, j'en passe et des meilleurs. Je voudrais que vous nous racontiez les fouilles que le nomade que vous êtes a menées à un moment à Sijilmassa, c'est-à-dire une cité qui est au sud du Maroc et qui est un nœud important dans une route occidentale qui mène au royaume du Ghana et du Mali.
Alors, on est en bordure du Sahara, c'est-à-dire qu'à quelques kilomètres de Sijil Massa, ce sont les grandes dunes de Merzouga que certains touristes connaissent, mais ces dunes en réalité se forment sur le site de Sijil Massa lui-même. Un site très dégradé, pas facile du tout à fouiller parce que construit en terre. Et puis cette terre, une technique qui s'appelle le pisé, et cette terre s'érode en quelque sorte, le limon retourne à la poussière au bout d'un cycle d'un siècle ou deux, donc très très difficile à fouiller, d'autant que le site a été beaucoup pillé. Mais qu'est-ce que c'était? C'était effectivement une espèce de carrefour du bout du monde, c'est en tout cas l'expression que j'utilise dans le Rhinocéros d'or.
C'est un livre de 34 nouvelles. Je précise ça pour nos auditrices et nos auditeurs, publié chez Alma. Je referme la parenthèse.
Un carrefour du bout du monde, formulation un petit peu paradoxale. Carrefour, pourquoi? Parce que c'était à la fois au bout du monde, c'était littéralement au bout du monde islamique. C'est l'une des extrémités du monde islamique, c'est l'extrémité occidentale et méridionale du monde islamique. Au-delà de Sijil Massa, il n'y a pas grand-chose, à part l'océan Atlantique et puis le Sahara. Bon. Et en même temps, c'est un carrefour. C'est un carrefour parce que c'est précisément de là que partent les grandes caravanes qui, à la faveur de 60, 80, 100, 120 jours de traversée, vont de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est ce que les Arabes appellent le Bilad al-Soudan, c'est-à-dire que le pays des Noirs. Et de l'autre côté, il y a des royaumes prospères qui s'appellent le Ghana au XIe siècle, à ne pas confondre avec le Ghana actuel. Le Ghana du XIe siècle, c'est dans le sud de la Mauritanie, ou le Mali du XIVe siècle. Et là, royaume fameux, royaume prospère, royaume très célèbre au Moyen-Âge, qui fournissent de l'or et qui fournissent des esclaves et d'autres marchandises et qui se procurent en échange d'autres métaux, des textiles, etc.
Mémoire d'un continent, nous sommes en 1352, donc j'ai bien compris, au Moyen-Âge.
Un diplomate marocain arrive en 1352 dans la capitale où règne alors Mansa Sulayman. Cet étranger, c'est Ibn Battuta. « 300 esclaves armés d'arcs et de lances arrivent et se placent à droite et à gauche de l'esplanade qui conduit les appartements du sultan à la vaste coupole sous laquelle il reçoit. Suivent deux chevaux harnachés, plus deux béliers, sorte de mascotte du grand souverain. »
Se faufilant dans la foule, Ibn Battuta est là. Il s'est approché du trône derrière les dignitaires de la cour, toujours modeste. Brusquement, il parle à haute voix. Il interpelle le prince.
Certes, grand sultan, j'ai voyagé dans différents pays du monde. J'en ai connu les rois. Or, je suis dans ton pays depuis 4 mois, et tu ne m'as point traité raisonnablement comme un hôte. Tu ne m'as rien donné. Que pourrais-je dire de toi aux autres sultans?
Interprète, qui est cet homme? Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vu.
Sire, voici 2 mois qu'il se présente à tes audiences. Tu lui as même envoyé des aliments. Rappelle-toi, c'est un faquir qui a beaucoup voyagé et qui vient du Maroc.
Je n'aime pas la façon dont il me parle. Mais il ne sera pas dit que Mansa Sulayman n'ait manqué jamais de générosité. Qu'il soit donc logé, nourri, aux frais du trésor. L'audience est levée.
Ah, mérite-t-il d'être si bien reçu? Parce que, juste un détail, François-Xavier Fauvel, il a voyagé tant que ça, votre Ibn Battuta?
Ibn Battuta, oui, alors il a beaucoup voyagé.
On est toujours disposé à croire que les récits de voyage sont vrais.
Oui, c'est un texte exceptionnel que le texte de Ibn Battuta, mais qu'il ne faut pas forcément prendre comme un récit authentique d'authentique voyage. Ibn Battuta avait réalisé un projet qui était de décrire l'intégralité du monde. Et la façon, à son époque et dans son esprit, et dans la littérature dans laquelle il s'inscrit pour décrire le monde, c'est de le faire sous la forme d'un voyage. Néanmoins, il décrit ces régions-là, et en particulier les protocoles royaux, parce qu'il aime beaucoup ça. Il les décrit sous la forme d'un voyage. Quant au Mali, on n'en est pas très très sûr qu'il y soit allé. Néanmoins, il décrit, si c'est pas de son propre témoignage, c'est en tout cas d'un témoignage qu'il a emprunté à quelqu'un de fiable, il décrit l'audience qu'on vient d'entendre. Et il décrit d'autres cérémonies, etc. Et il le fait, effectivement, il a ce ton très arrogant qui déplaît dans le petit extrait qu'on vient d'entendre au sultan Sulayman, et on comprend. Parce qu'effectivement, Ibn Battuta a ce caractère à la fois d'auteur encyclopédique qui décrit véritablement l'intégralité du monde islamique médiéval, mais aussi ce côté très arrogant et effectivement, on dirait aujourd'hui, raciste, clairement raciste.
Mais ce sultan, c'est à la fois une autorité religieuse, Il règle les litiges commerciaux selon le droit musulman. Vous avez dit quels avantages présentait le droit musulman. Mais c'est aussi un souverain qui continue à traiter, dans le cadre des religions traditionnelles africaines, avec ses sujets.
Oui, c'est ce côté dual sur lequel j'insiste beaucoup et sur lequel portera une partie de mon cours cette année au Collège de France, ce côté dual des sociétés africaines médiévales. Et en l'occurrence, effectivement, le souverain, en l'occurrence Souleymane, mais avant lui Moussa, par exemple, on sont à la fois sultan musulman et en même temps mansa, c'est-à-dire roi traditionnel mandingue, c'est-à-dire voilà chef des cultes locaux, garant de la prospérité pour l'essentiel de la population locale, qui, elle, n'est pas du tout musulmane. L'islam, au XIVe siècle au Mali, c'est une affaire du roi, de la cour, et puis de quelques gouverneurs, et puis de quelques grands marchands et dignitaires locaux. Mais ça reste une religion très très minoritaire dans la société. Donc on a cet aspect comme ça dual. Le roi est à la fois sultan et mansa, il est à la fois musulman et chef des cultes traditionnels.
Cette souveraineté du Mali est connectée avec l'Égypte, qui a un rôle de plus en plus central à mesure qu'avance le Moyen-Âge, sous l'influence des Mamelouks qui ont vaincu et Saint-Louis et les Mongols, et on va voir un souverain du Mali en caravane partir vers la Mecque. Mais d'où part-il? Ça va être ma dernière question qui va vous désarçonner, peut-être. D'où part-il? Où est-ce Maliville?
Alors, c'est une question très compliquée. D'abord, on n'est pas très sûr de comment s'appelle la capitale du Mali. Les sources, beaucoup de sources arabes, notamment Ibn Battuta et Al-Oumari, un autre chroniqueur de l'époque, nous en parlent. Le problème, c'est que les manuscrits ne porte pas les signes diacritiques sur les lettres qui nous permettraient de prononcer le nom de cette ville. Donc elle peut se prononcer d'une cinquantaine de manières différentes. On a une très très belle carte catalane
de
1375 qui est conservée à la Bibliothèque nationale à Paris, qui écrit en catalan Maliville. Ciutat de Mali, voilà, Maliville. Bon. Donc, si vous êtes d'accord, gardons-lui ce nom-là. Quant à savoir où c'est une autre question, parce que le récit d'Ibn Battuta est à la fois très précis sur la topographie de la ville. On peut presque le suivre mètre par mètre, quand il va de sa maison jusqu'au palais, de la salle d'audience jusqu'à la mosquée qui traverse, etc. Alors, on peut le suivre mètre par mètre, mais quant à savoir où c'est, comment on y va, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne nous a pas laissé l'itinéraire suffisamment précis pour le retrouver, et l'archéologie, jusqu'à présent, n'a pas retrouvé ce site.
Les empires courtiers, c'est ainsi que vous les définissez, Gao, Ghana, Mali, sont des champignonnaires de sites peut-être intermittents. Et quand l'archéologie aura enfin trouvé Maliville, on saura pourquoi elle ne comprenait pas où c'était. C'est une des leçons de votre leçon inaugurale, François-Xavier Fauvel. On continue à en suivre les éléments demain pour le troisième épisode de notre série qui sera consacré à l'Afrique australe. La marche de l'histoire était préparée par Frédéric Martin, Étienne Bertin à la réalisation, Juliette Delperroux pour la technique.